Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la province Sud, chef de file des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et beaucoup de sujets à voir avec vous, alors que la mission des facilitateurs a quitté la Calédonie et que l'on s'interroge bien sûr sur la suite du processus de Bougival. Je vous demanderai aussi votre réaction et votre décryptage après l'annonce ce matin du plan de relance de l'État. Et puis nous parlerons également politique provinciale avec les dispositifs d'aide qui ont été adoptés hier par l'Assemblée de province. Alors l'actualité immédiate, c'est l'annonce du plan de relance du Premier ministre. Un plan de 2 milliards d'euros, 264 milliards de francs CFP sur 5 ans. Est-ce que c'est l'aide massive que l'on attendait, que l'on avait laissé entendre ?
Oui, c'est enfin un plan global qui concerne plusieurs secteurs sur plusieurs années d'accompagnement de l'État. Alors il faudra regarder dans le détail comment tout ça se décline, mais on l'attend depuis très longtemps parce que c'est vrai que c'est très difficile de fonctionner et pour les entreprises et pour les collectivités et pour les particuliers sans aucune visibilité financière. Donc là, c'est cette visibilité-là, même si ça a été écrit par le Premier ministre, tout ça dépend évidemment du vote du budget au niveau national. Et comme on le sait, c'est pas gagné.
Voilà, donc rien n'est encore définitif. On attend que le budget de l'État soit adopté pour avoir confirmation de ces aides. Hein. Quels sont les points essentiels de ce plan ? Et s'il est confirmé, est-ce que ça va permettre à la Calédonie de passer sans trop de dommages l'année 2026 ?
Oui, alors ça, c'est clairement si ce plan de relance est adopté par le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça permet d'avoir beaucoup de leviers, beaucoup d'outils pour faire que la Nouvelle-Calédonie s'en sorte en 2026. En particulier, on a quand même des axes très importants qui sont nouveaux. Il y a 5 piliers, donc tous sont importants, mais la partie aide aux entreprises, la partie attractivité, suppression de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui en fait se retrouvent à crouler sous les charges alors qu'elles n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant crise, c'est important. La partie investissement public, c'est très important parce que le BTP va très mal et on sait très bien et on dit assez facilement quand le bâtiment va, tout va. A contrario, quand le bâtiment va pas, c'est beaucoup de choses qui s'effondrent derrière. Donc les investissements publics, c'est fondamental. On a des grands projets, je pense pour la province à la traversée entre Ducos et Coutio, je pense à la question du viaduc du Mont d'Or, je pense à des grands travaux qu'on a dans les cartons, mais qu'on n'est pas capable de financer parce qu'on n'a pas d'argent de l'État.
Et ça, c'est fondamental. Cette aide de l'État, enfin, ce qui est prévu dans ce plan, ça permettrait de financer ces grands travaux.
Ça permet en tout cas d'apporter l'aide qui permettra peut-être d'avancer. On verra, parce que ce n'est pas tout pour la province Sud, donc on verra comment tout ça est réparti, mais en tout cas, ça permet d'avancer. Et puis, l'autre élément majeur, c'est le budget de l'État, le budget pardon, de la Nouvelle-Calédonie et donc des collectivités et donc de la retraite. J'entendais hier Philippe Michel faire du catastrophisme en annonçant aux retraités qu'ils n'auraient plus de retraite en mai. Ça ne sert à rien de dire ça. Bon, aujourd'hui, là, ce courrier répond à cette inquiétude-là et je veux le faire aussi pour les Calédoniens qui s'inquiètent parce que j'ai reçu beaucoup de messages inquiets hier. Les retraites, le RUAM, Enercal, tout ça est couvert par ce projet de l'État. Après, il y a un élément qui est fondamental, c'est le nickel. Alors, ce n'est pas chiffré aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de scénarios différents. Quelles sont les entreprises qui sont en capacité d'être reprises, de continuer leur fonctionnement, qui peuvent continuer à être accompagnées ou pas par l'État, qui ont un repreneur potentiel. Tout ça est différent en fonction, évidemment, des sociétés minières et métallurgiques.
Mais c'est une priorité listée par l'État, effectivement, dans ce plan relance.
Vous savez, la mission estimée, s'il y a une fermeture, enfin, estimée chaque fermeture d'usine restante, à 10 000 emplois perdus. 10 000 emplois. Entre les emplois directs, les emplois indirects et les emplois induits, c'est 10 000 emplois perdus. C'est 10 000 familles, en plus d'aujourd'hui, qui seraient en difficulté. Donc le nickel, c'est fondamental. Et puis le dernier point, c'est important, parce qu'on voit que... Les Calédoniens sont inquiets de dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire, cette jeunesse ?» En fait, celle qu'on a vue le 13 mai, sur les barrages, le terme qui était utilisé, c'est une jeunesse perdue. Comment on fait ? Et là, il y a une grosse enveloppe qui est mise en place pour des éducateurs spécialisés, des services civiques, de la lutte contre le décrochage scolaire. Ça, c'est important parce que c'est aussi l'avenir. C'est-à-dire que là, on a le très court terme avec ce que je vous ai dit sur le budget. 2026, c'est tout de suite comment on fait pour s'en sortir sur les retraites, sur le RUAM, sur Enercal, sur le budget des collectivités. Le moyen terme avec les investissements publics, avec les aides aux entreprises, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 5 ans. En tout cas, ce plan, il prévoit sur 5 ans. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait sur le long terme pour éviter que cette jeunesse décroche complètement et s'installe dans la violence.
Alors, le Premier ministre demande l'avis des élus. Hein. Il attend votre tour. Oui. Comment ça se passe ? Vous avez travaillé ensemble ? Vous avez travaillé par province, par groupe politique
Moi, c'est mon souhait qu'on arrive à faire une réponse commune. J'aimerais qu'on soit solidaires dans la réponse. Le président du gouvernement nous a convoqués lundi matin pour essayer de proposer une réponse commune. Moi, je pense que c'est notre force sur ces sujets financiers d'être capable d'être solidaires.
Alors, l'autre sujet d'actualité, c'est bien sûr la mission des facilitateurs. Elle a été rapide, elle est arrivée lundi. Elle est repartie hier soir, Thierry Lataste, Rémi Basti, Benoît Lombrière. Ils n'ont fait aucune déclaration. Là, pour le coup, la discrétion était absolue. Ils devaient aboutir, c'est ce que leur avait demandé la ministre des Outre-mer, à une version consolidée de l'accord de Bougival. Ils ont réussi ou ils ont échoué ?
Ils ont tout simplement été arrêtés dans leur élan par la lettre du Parti socialiste. Le Parti socialiste qui fait un courrier pour dire qu'ils refuseront que les Calédoniens soient consultés sur l'accord de Bougival... Ça a quand même un peu arrêté toute possibilité de faire quoi que ce soit. Ensuite, nous, on a une position sur le sujet qui était quand même assez claire, qui était de dire, nous, on respecte notre signature. On a signé l'accord de Bougival, on l'a signé, et quand on a signé, la page qu'on a signée, il y a écrit qu'on s'engage à le défendre en l'état. Nous, on a l'habitude de respecter notre parole, notre signature. Il y en a qui tanguent et qui profitent de chaque moment de doute pour se désengager. Moi, je regrette quand même qu'aujourd'hui, Calédonie Ensemble et l'éveil océanien aient à la fois accepté ce qu'on appelle DEVA, c'est-à-dire l'indépendance association qui était proposée par Manuel Valls, et aujourd'hui soutiennent le FLNKS dans leur communiqué en disant qu'on ne peut rien faire sans le FLNKS et qui finalement disent pour faire plaisir au FLNKS, il faudrait un nouveau référendum. Le nouveau référendum, c'est la mort de la Calédonie, donc on va faire quoi ? On va aller dans ce sens-là, on va chercher des gens qui aujourd'hui disent clairement, le FLNKS, ils ont le mérite d'être clairs. Un, on ne veut pas discuter avec les autres, on veut discuter qu'avec l'État. Et deux, on veut une seule chose, c'est l'accord de Kanaky et l'indépendance. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de grande porte ouverte par rapport à ça. Et je pense que ils sont aujourd'hui isolés dans cette position-là. On a l'UNI qui veut avancer ensemble. Nous, on veut avancer ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à soutenir le FLNKS dans sa démarche extrémiste. On voit bien, il y a eu un reportage hier qui rappelait comment ça s'est passé pour l'accord de Matignon. Au moment de l'accord de Matignon, on avait les mêmes opposants. On avait l'USTKE à l'époque qui était contre, les extrémistes des deux camps qui étaient contre. On est passé outre et on a avancé. Et je pense qu'aujourd'hui, la position de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien, on verra comment ça se passe lundi au Congrès, mais doit être de respecter leur signature et de continuer à soutenir le seul accord qui a finalement été signé par tout le monde, parce que c'est le seul qui a été signé par tout le monde, qui est celui de Bougival.
Mais alors, je le disais, rien n'est sorti de cette mission de 5 jours, même pas 4 jours en Nouvelle-Calédonie. Sur quoi ça a porté ? Parce qu'on sait que notamment... L'UNI avait proposé un certain nombre de modifications qui tenaient notamment au transfert, aux modalités de transfert des compétences régaliennes. Est-ce que ce point a été abordé ? Est-ce que les négociations ont achoppé sur ce point-là ? Ou est-ce que c'est vraiment tout autre chose ? C'est un état d'esprit général ?
Il n'y a pas eu de négociation, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de plénière. Hein. On a juste les uns et les autres rencontré les facilitateurs. Voilà. Nous, c'est très simple. Hein. On considère que l'accord de Bougival, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. On considère que les équilibres ont été trouvés, qu'on a fait quand même des concessions qui sont importantes, qui nous sont reprochées par une partie des électeurs non indépendantistes, et qu'il n'est pas question de revenir sur les équilibres de Bougival. Donc il y a des choses qui étaient... Il y avait un des sujets qui était, est-ce qu'il faut changer le nom de l'accord de Bougival ? Mais c'est pas très grave de changer le nom de l'accord de Bougival. Tant que c'est ça, il n'y a pas de sujet. Dès l'instant où ça remet en cause les équilibres, et je pense à un des sujets qui a été abordé, c'est de dire, finalement, il y a un moment où il y avait une demande qui était de dire, les compétences régaliennes, il y a, vous savez, 3 verrous pour les transférer, 36 sur 56 élus du Congrès, le veto, la capacité pour l'État de s'opposer à ce transfert, et puis les Calédoniens qui s'expriment, ceux qui ont plus de 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, qui s'expriment pour ou contre ce transfert. Il y avait à un moment donné une partie des signataires de Bougival qui disaient, ben, en fait, si on n'arrive pas à transférer, il faut prévoir quand même un référendum à la fin pour... Ben, non, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est justement... L'esprit de Bougival, c'était de réussir à se mettre d'accord et à faire les choses ensemble et à se convaincre les uns les autres. Ce n'est pas de passer en force pour réussir à changer ça. Et je pense que, vous savez, aujourd'hui, on verra ce qui se passe lundi au Congrès, mais je pense que la parole, elle doit être aux Calédoniens. Elle doit être aux Calédoniens parce que les partis politiques ont fait leur job. On a été au bout du bout de ce qu'on pouvait faire les uns les autres comme concession. Et je pense que maintenant, la parole doit revenir aux Calédoniens. Et je regrette que le Parti socialiste ait fermé cette porte-là, en tout cas, ait dit qu'ils ne soutiendraient pas ça, parce qu'ils sont à la fois les premiers à nous dire bah, « finalement, c'est les Calédoniens qui décident ». Et là, en même temps, bah, ils nous empêchent de décider en, ouais, en refusant de voter.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'ils ont mis un certain temps quand même à écrire cette lettre. Alors, ça a été justifié par la mission des facilitateurs, parce que quand même, Nadia Naïma Moutchou avait annoncé cette consultation anticipée il y a longtemps, enfin, avant de quitter la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de parole, de position des
Je ne suis pas dans la tête du Parti socialiste et je grand bien m'en fasse. Je ne sais pas, je regrette parce qu'ils n'ont même pas attendu la fin de la mission des facilitateurs. Peut-être qu'ils ont voulu l'arrêter avant, peut-être qu'ils ont... Vous savez, il y a une double influence hein, au niveau du Parti socialiste. Il y a l'influence du Palika, d'une part, mais ils ont aussi une proximité avec Emmanuel Tchibaou et avec une partie... De ce qui reste aujourd'hui du FLNKS. Donc, je pense qu'ils sont partagés. Ils ont dû avoir des influences à Paris pour aller dans ce sens-là. Mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu attendre la fin de la mission des facilitateurs plutôt que finalement de fermer la porte tout de suite.
Donc, cette mission, elle a servi à rien ?
Ouais, elle sert, c'est jamais inutile. Mais en tout cas, il n'y a pas de conclusion.
Et les contacts sont gardés avec les facilitateurs ?
Oui,
éventuellement,
sûr.
Ils peuvent réintervenir dans le dossier un moment ou un autre. Ah, vous le disiez, donc lundi, le congrès est convoqué. Pour donner son avis sur le projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival, ça va se passer comment, à votre avis ? Au point où on en est aujourd'hui, il n'y aura pas de majorité pour donner un avis favorable, ou si ?
Je ne sais pas. Et je pense que ceux qui vous disent qu'ils savent se trompent, parce que tout ça se décidera évidemment lundi. On est 5 groupes politiques sur 6 à avoir maintenu notre signature et soutenu l'accord de Bougival. Je ne sais pas comment ces 5 groupes vont se positionner. Ce qui est certain, c'est que le FLNKS votera contre. Ça, il n'y a pas de doute. Pour les autres, on verra bien. Mais vous savez, maintenant, au point où on en est rendu, la situation, c'est que si une majorité des élus du Congrès vote contre cette consultation, ça mettra fin au processus de Bougival. Ça veut dire quoi, mettre fin au processus de Bougival ? Ça veut dire aller aux élections provinciales avec un corps électoral gelé. Donc concrètement, les gens... et je parle en particulier de Calédonie Ensemble et de l'Éveil Océanien. Si Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien votent contre la consultation, ça veut dire concrètement, la suite est très simple, c'est les élections provinciales avec un corps électoral gelé. Je ne sais pas si les électeurs de ces partis politiques sont vraiment pour cette position-là. Si le Congrès donne un avis favorable, et je le souhaite, je pense que l'UNI a tenu sa parole jusqu'à présent, a défendu l'accord de Bougival devant ses militants, a toujours indiqué qu'ils étaient plutôt pour. Donc, si l'UNI donne un avis favorable, et donc s'il y a une majorité au Congrès, ça va ensuite à l'Assemblée et au Sénat.
Il y a une majorité ou non ?
Les choses sont très simples désormais. Le PS a dit qu'il sortait, qu'il ne voterait pas ce projet de loi. Donc aujourd'hui, les cartes sont dans les mains du Rassemblement national. Le Rassemblement national, dont la position était de dire « Nous, on considère qu'il ne faut pas travailler sur l'institutionnel en priorité, mais qu'il faut un plan de relance ». Ce plan de relance, aujourd'hui, il est sur la table. Il a été mis sur la table par le Premier ministre. Donc, quelque part, le Rassemblement national a... Enfin, le Premier ministre a donné raison au Rassemblement national en transmettant ce plan de relance. Donc, si le Congrès de la Nouvelle-Calédonie donne un avis favorable à ce projet de loi... Les cartes seront dans les mains du Rassemblement national. Soit ils votent pour que les Calédoniens s'expriment en mars prochain sur l'accord de Bougival, et je trouve que quand même, c'est la moindre des choses de donner la parole aux Calédoniens pour qu'ils s'expriment compte tenu de la situation, ça clarifierait les choses. Soit, si le Rassemblement national vote contre cette consultation, eh bien l'État sera dans l'obligation d'organiser les élections avec un corps électoral gelé, ce qui est quand même parfaitement inacceptable compte tenu du fait qu'on a des personnes qui sont là depuis 25 ans et qui ne peuvent pas voter.
Des élections provinciales qui doivent avoir lieu avant le 28 juin, ça veut dire que ça pourrait avoir lieu n'importe quand dans la période entre Entre janvier et juin ou...
Oui, il y a quelques contraintes techniques d'élaboration des listes, de décrets, de durée entre le décret et les élections, de durée de la campagne. Mais oui, concrètement, ça pourrait être, alors pas au mois de janvier, mais ça pourrait être entre le 1er mars et le 28 juin. Ouais.
En même temps que les élections municipales, ce ne serait pas une bonne idée.
Je pense qu'ils ne vont pas faire ça. Mais...
Et vous n'avez aucun moyen, au point où on en est aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de vous opposer à des élections provinciales avec un corps électoral gelé si jamais le processus de Bougival est interrompu?
Alors, évidemment, on attaquera sans doute le décret de convocation des électeurs compte tenu du corps électoral. Mais à ce stade, vu la position du Conseil constitutionnel, il est probable qu'on perde à ce niveau-là. Donc on a une procédure qui est engagée, c'est pas nous qui l'avons engagée, c'est l'association Un cœur, une voix auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le dernier échelon auquel on peut s'adresser. Je ne sais pas quels seront les délais, mais dans un premier temps, il y a des chances que les élections provinciales se fassent avec un corps électoral gelé. Ce qui quelque part, ne remet pas en cause l'accord de Bougival en lui-même. Hein, ça, le processus peut continuer après. Enfin, quand même, se retrouver à faire des élections avec tout ce qu'on a fait, se retrouver à faire des élections avec un corps électoral gelé parce que des partis politiques qui en tout cas, au moins un qui se dit non indépendantiste, vote contre ou parce que le Rassemblement national voterait contre, ce serait quand même surprenant.
Avec le Rassemblement national, il y a des relations, des échanges avec leurs responsables parisiens, en tout cas, enfin au Parlement, pour essayer de leur expliquer la situation.
Oui, bien sûr, on a des discussions avec des responsables parisiens. Moi, j'ai vu Louis Alliot il y a très peu de temps, Marine Le Pen quand elle est venue ici, évidemment. On continue à avoir des discussions qui sont bien plus simples avec les responsables politiques nationaux qu'ils le sont avec les représentants politiques du Rassemblement national locaux.
Est-ce qu'il y a une solution alternative à Bougival? Bon, on va envisager le scénario du pire, le Congrès refuse de voter, tout ça se délite, il y a des élections avec un corps gelé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il faut rechercher un nouvel accord consensuel? Est-ce qu'il faut repartir sur la base de Bougival? Parce qu'on est dans une incertitude
en
quand
fait,
même.
Je ne crois pas, enfin je suis même convaincue qu'il n'y a pas d'autre équilibre possible que celui qu'on a trouvé. On n'acceptera pas tout projet, contrairement à ce qui a été proposé par Manuel Valls, mais on n'acceptera pas compte tenu du vote des Calédoniens qui ont quand même dit trois fois non, enfin je veux dire, et on le répète à chaque fois, mais il ne faut quand même pas l'oublier, on n'acceptera aucun projet qui soit en dehors de la France, avec ou... Non, la Calédonie a décidé de rester française, donc on n'acceptera aucun autre projet qu'un projet dans la République française, et on n'acceptera pas non plus d'imposer à nouveau aux Calédoniens, dans un délai tel qu'il était prévu ou il a été envisagé, de faire un nouveau référendum pour ou contre l'indépendance, parce que on voit bien que toute la politique locale, tout le positionnement des Calédoniens, finalement, ne se fait plus que là-dessus. Et qu'à la fin, on arrive forcément à des tensions, voire à une demi-guerre civile comme on l'a eu. Donc, on n'acceptera pas ça. Et donc, la force de l'accord de Bougival, le caractère créatif de l'accord de Bougival, c'est qu'il n'y a plus de référendum. Mais que, pour autant, le droit à l'autodétermination existe quand même, puisque la capacité permanente à transférer les compétences régaliennes, avec certes des dispositions qui sont compliquées, ça a finalement remplacé le droit à l'autodétermination tel qu'il existait avec un référendum binaire. Mais c'est la force de Bougival, et c'est pour ça que je pense, et je suis convaincue qu'il n'y a pas d'autre équilibre possible que celui-là qui fasse à un moment donné consensus. Donc je ne crois pas que, si on en allait, parce que la situation politique locale est quand même... devenu compliqué avec des gens dont on ne sait pas s'ils représentent encore quelque chose, et je pense à Calédonie Ensemble, s'ils sont encore représentatifs, on continue finalement à se baser sur l'avis de ces gens-là. Situation politique locale complexe, situation nationale très 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 compliquée. Donc si on en arrive à l'échec quand même qui est les élections avec un corps électoral gelé, c'est pas pour ça que Bougival est mort. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que les choses ne continueront pas sur cette base-là.
Mais on cherche plus... selon vous, est-ce qu'on peut chercher une solution, un accord consensuel avec le FLNKS, essayer quand même de les ramener sur une solution? Ou est-ce que maintenant, il faut s'habituer à faire sans eux, sans le nouveau FLNKS?
Moi, nous, on a toujours laissé la porte ouverte. Et il y a des gens avec lesquels on parle dans le nouveau FLNKS, malgré tout. Mais... Vous savez, ceux qui ont pris la main sur le FLNKS sont ceux-là même qui ont été contre les accords de Matignon et qui ont été contre l'accord de Nouméa et qui seront contre tout accord parce qu'ils ne veulent que l'indépendance et nous n'accepterons jamais l'indépendance. Donc, la porte reste ouverte, mais on voit bien qu'il n'y a pas de volonté de la part de ce nouveau FLNKS de trouver un accord. Et encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense qu'il y a des discussions possibles avec certains, mais à condition qu'il y ait la volonté de trouver un accord. Et pour arriver à un accord, il faut déjà accepter de nous parler. Aujourd'hui, le FLNKS dit clairement, on ne parle qu'avec l'État, on ne parle pas avec vous. C'est dire la reconnaissance qu'ils ont de notre présence ici.
Il faut attendre les provinciales pour que tout ça se décante et qu'on voit un peu le poids de chacun, la représentativité de chacun. Est-ce que ça peut être une opportunité ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse considérer que ce soit une opportunité d'aller aux élections dans ces conditions-là. Mais oui, ça permettra ça. Moi, je crois que, vous savez, dans la situation dans laquelle on est, je souhaite ardemment qu'on aille consulter les Calédoniens. Ça, c'est la vraie solution. Aller à cette consultation citoyenne pour demander aux gens s'ils sont pour ou s'ils sont contre Bougival, ça, c'est la vraie solution. Après, vous savez quoi, les élus se calent sur cette position-là. Si les Calédoniens sont pour, on continue. Si les Calédoniens sont contre, on fait autre chose. Et le Parlement français, dès l'instant où les Calédoniens se seront exprimés, le Parlement français suivra. Donc ça, c'est la vraie solution. Au moins, on saura ce que les Calédoniens veulent. Si on en est à faire autre chose, c'est parce que la situation politique locale et nationale est devenue ingérable.
On envisage.
Mais vous savez, je crois quand même dans le fait qu'à un moment donné, et en 2027 en particulier, la situation politique nationale se clarifiera. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste, à lui seul, essaye de faire bloquer la consultation du peuple, ce qui est quand même surprenant. Bon, très bien, mais quel sera le poids demain en 2027 Vous savez, je crois que en fait, la solution, et je pense qu'il faut rester optimiste, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec ce plan de relance, on a la capacité de faire tourner la Nouvelle-Calédonie, de faire redémarrer la Nouvelle-Calédonie. Les assurances remboursent de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de choses qui se reconstruisent. Il va y avoir des investissements publics. On va permettre de maintenir les retraites, le RUA, mais tous nos systèmes, tout notre système administratif et de protection sociale. Donc, ça va tourner. Et puis, on verra en 2027.
Enfin, on attend quand même l'adoption du budget de l'État. Et on parle encore éventuellement d'une dissolution. C'est encore dans les... Dans les scénarios actuels, on ne sait pas.
Là aussi, personne ne peut.
Là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes.
Personne ne peut savoir.
Dans ce contexte et dans la situation catastrophique de l'économie calédonienne, et c'est aussi l'un des grands soucis des Calédoniens, vous le savez, vous avez réussi à voter le budget 2026 de la province sud hier. Vous l'avez fait avant de connaître le plan de relance. Il aurait été différent si vous aviez eu ces éléments ou...
Alors en fait, on les avait, les élus avaient été informés et par la mission interministérielle et par les facilitateurs de ce qu'il allait avoir dans ce courrier. Donc on était un peu...
Vous aviez anticipé.
On avait un peu anticipé ce qui était prévu. Donc ce budget, il est à la fois rassurant. Et vous savez, si on ne vote pas de budget avant le 31 décembre, ce qui était la volonté de Calédonie Ensemble hier, qui voulait qu'on vote pas de budget pour s'opposer fermement à l'État. Bon. Le pas voter le budget, ça veut dire qu'on ne peut pas lancer les investissements. C'est 10 milliards d'investissements pour la province. Investissement, c'est ce qui fait bosser le BTP, concrètement. Ces investissements, s'ils se font pas, si on n'a pas de budget, les investissements peuvent pas être lancés au 1er janvier. On est obligé d'attendre que le budget soit voté pour lancer les investissements. Vous savez, c'est autant de travaux, d'emplois en moins. Donc c'était essentiel de voter ce budget et on l'a fait en responsabilité. Ensuite, on n'a pas fait que le budget. Le budget, c'est un élément rassurant. Tous les Calédoniens doivent bien voir que ce n'est pas si facile que ça de voter un budget. C'est compliqué en métropole, c'est compliqué à la Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué dans les collectivités. C'est un élément de stabilité, le vote d'un budget. Mais il n'y a pas que ça. On continue à accompagner parce que la province a cette agilité d'accompagner les Calédoniens sur les problématiques concrètes qu'ils rencontrent. C'est tous les dispositifs qu'on a mis en place. Sudpro, 1,7 milliard pour les petites entreprises, les patentés.
Qui a été un vrai succès, d'ailleurs.
Qui a été un vrai succès et qui a permis de faire tourner l'économie pour les petites entreprises. En plus, ce 1,7 milliard qui a été à disposition des petites entreprises, il a été pour plus de la moitié dépensé dans des petites entreprises. Donc ça a vraiment fait un effet levier important. Ensuite, on voit qu'on a un problème de pénurie médicale. On a le dispositif d'attractivité Sud Santé. On voit bien aussi que compte tenu du nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, les plus pénalisés dans la recherche d'emploi, c'était les jeunes. Parce que, évidemment, il y avait tout un tas de gens qui avaient beaucoup d'expérience qui se retrouvent sur le marché, qui ont peut-être moins de mal à retrouver du travail parce qu'ils ont de l'expérience. Mais les jeunes qui sortent des études, eux, c'est une catastrophe. Et donc, on a fait Sud-Jeune qui permet finalement d'accompagner et d'encourager les entreprises à embaucher des jeunes. Et là, ce qu'on constate, c'est que les entreprises... elles ont consommé leur trésorerie en 2025, en 2024, en 2025. Elles se sont dit « ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Elles ont tiré sur leurs réserves et aujourd'hui, elles sont à sec. Et donc, le dispositif Sud Relance qu'on a prévu hier, c'est un prêt qui est proposé sans garantie, à un taux attractif de 3,48%, avec une possibilité de différer qui va permettre à certaines entreprises de répondre à leurs besoins en fonds de roulement, de faire les investissements nécessaires. Je pense par exemple à un commerce qui finalement a tiré sur sa trésorerie, qui a même plus la capacité à refaire son stock. Et si elle ne refait pas son stock, pardon, elle ne va pas le vendre et donc pas se refaire, entre guillemets. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être là pour accompagner à la reprise, à la relance des entreprises. Et puis, un message aussi qui était plus un signal envoyé, un symbole, mais qui aura, je l'espère, aussi du succès, qui est le dispositif Sud-Retour. On a quand même des Calédoniens qui sont partis.
C'est pour faire revenir les Calédoniens.
Ah oui, on a des Calédoniens qui sont partis, c'est l'intérêt de personne. Les Calédoniens qui partent, c'est des consommateurs en moins, c'est des gens qui sont moins présents en centre-ville, dans les différents endroits de la Nouvelle-Calédonie, pour le tourisme, pour tous les secteurs d'activité. S'ils peuvent revenir, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc, Sud-Retour, c'est de l'aide au billet d'avion, au premier mois de salaire, pour les encourager à revenir.
Vous avez trouvé l'argent pour financer tous ces dispositifs? Comment vous avez fait? Vous allez me dire que la province est bien gérée, d'accord, mais dans cette situation où personne n'a d'argent...
Vous avez répondu, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourrait pas faire tout ça si on n'avait pas... On a supprimé 200 postes, c'est pas qu'on a mis à licencier des gens, puisque ce sont des fonctionnaires, mais on n'a tout simplement pas renouvelé des postes, donc c'est 200 non-renouvellements de postes. On a fait des économies importantes sur ce qu'on appelle les subventions, les interventions, enfin tout ce qui est... finalement, fonctionnement quotidien de notre administration qui se serre la ceinture au quotidien, qui fait des efforts sur tout. On a fait c'est 15% de baisse sur le fonctionnement quotidien de la province. Et ça nous permet de maintenir un niveau d'investissement très haut par rapport aux autres collectivités qui se sont retrouvées à devoir baisser. Parce que vous savez, quand on fait pas ces efforts-là, personne nous prête d'argent. Et si personne ne nous prête d'argent, on ne peut pas investir. Donc c'est très simple. Donc il faut faire ces efforts-là, et ce sont ces efforts-là qui nous ont permis de faire tous les dispositifs qu'on a prévus aujourd'hui.
Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, l'État met aussi des conditions à la relance, à l'aide. Elles vont être tenables, elles vont être possibles. On va pouvoir trouver une majorité pour mettre en œuvre ces réformes que demande l'État.
Je crois que c'est là où l'État a été maladroit. Pas dire plus depuis un an et demi, c'est qu'ils nous ont demandé de faire des réformes pour rajouter des recettes. Les Calédoniens, ils sont dans une situation économique catastrophique et on va leur dire vous allez payer plus de charges et plus d'impôts. Mais ça n'existe pas. Donc on a tous ensemble, de manière solidaire, on s'est opposé à ça. Aujourd'hui, il y a une compréhension du fait que la priorité, c'est de faire des économies de dépenses. C'est-à-dire que si on veut que la Calédonie redémarre, oui, on doit faire des économies de dépenses. Le train de vie de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics, du RUAM, il est trop... On ne peut pas réussir avec un boulet financier au pied pareil de réussir à redémarrer. Donc l'urgence, c'est de faire des économies. Et ces économies-là, je vous en ai parlé pour la province, elles sont en train d'être proposées par Christopher Gigès en charge du budget au gouvernement à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Elles le sont par les communes. Les communes font énormément d'efforts également pour faire ces économies. Et ça permettra... d'accompagner la relance, c'est-à-dire que c'est aussi moins de lourdeur pour les entreprises et certainement pas des charges en plus. Donc oui, c'est possible, à condition d'aller dans le sens de dire on paiera peut-être plus quand on aura les moyens de payer plus. C'est-à-dire que, évidemment, quand l'économie repartira, tout le monde repaiera de l'impôt sur les sociétés. Évidemment, tout le monde repaiera plus de charges. Mais si, quand les gens n'ont pas de travail, vous savez, ils ne payent pas leurs cotisations au RUA, mais ils ne payent pas leurs cotisations à la CLR. Donc on a un trou... béant dans ces organismes-là, tout simplement parce qu'on n'a plus de gens qui bossent et plus de gens qui cotisent. Donc l'urgence, c'est de redonner du travail aux gens. C'est ce qui est fait maintenant avec le plan de relance, ce qui va être fait avec l'investissement public, avec les aides aux entreprises, pour que finalement la machine reparte.
Et l'État a changé d'attitude. Vous avez le sentiment qu'il a...
C'est une bataille quotidienne, mais ça évolue.
Le Premier ministre semble s'occuper du dossier peut-être à nouveau. On l'a vu dans la lettre de mission pour les facilitateurs, on le voit pour le plan de relance. Le dossier calédonien revient à Matignon un petit peu ?
Je crois qu'il n'a jamais été très très loin. C'est-à-dire que je pense qu'il a une amitié, un attachement à la Nouvelle-Calédonie très fort et il ne peut pas s'en désintéresser. C'est un des premiers dossiers qu'il a traité quand il est arrivé au gouvernement. Il fait très attention à ce qui se passe ici. Et je pense que c'est ce plan de relance, encore une fois, il faudra voir dans les détails, mais ce plan de relance, c'est le marqueur, d'une part, du fait qu'il croit dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est des montants qui sont quand même assez gigantesques. Et d'autre part, c'est vraiment proche des problématiques réelles qu'on ressent. Et donc, c'est une réponse, quand même, avec ces cinq piliers différents qui correspondent à nos cinq problématiques. On voit qu'il est resté très proche et très... il répond de manière très concrète aux problématiques de la Nouvelle-Calédonie.
Pour conclure, M. Bacchès, on est en fin d'année, hein, début décembre. Vous aviez dit, il y a quelque temps, que 2026 serait pire que 2025. Ça avait un peu, fait peur. Est-ce que vous en êtes toujours convaincu aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'en 2026, la Calédonie va pouvoir... commencer à respirer un peu, avoir un peu...
Je ne suis pas sûre d'avoir prononcé exactement ces mots-là, mais en tout cas, ce que je disais, c'était que si on n'avait pas d'aide de l'État, ce serait un drame, clairement. Et je le répète, si cette aide n'arrivait pas, c'est l'effondrement. On n'est pas capable de faire survivre ni les collectivités, ni les entreprises, ni nos organismes sociaux. Donc c'est l'effondrement. Là, avec les nouvelles qu'on a, si elles se concrétisent, 2026 va aller beaucoup mieux.
Voilà, pour une bonne nouvelle pour terminer ce magazine. Merci d'accepter cette invitation.